Vous écoutez IDFM, il est 21h.
Bienvenue sur IDFM Radio avec L'Onde Poétique, une émission de l'Ouvre-Boîte à Poèmes, l'association poétique et littéraire de la vallée de Montmorency.
Tous les dimanches soirs de 21h à 22h sur IDFM Radio, L'Onde Poétique vous propose une émission.
Dis-moi ta poésie, rencontre francophone, l'invitation au voyage et fragments poétiques. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir chères auditrices, chers auditeurs. Nous sommes avec vous ce soir sur IDFM Radio pour une émission d'une heure de l'invitation au voyage. C'est une émission thématique de L'Onde Poétique et vous savez que peut-être que L'Onde Poétique est une émission de l'Ouvre-Boîte à Poèmes, qui est une association poétique dont le siège est situé à Montmorency. Donc cette émission sera assurée par vos animateurs habituels, Claude.
Bonsoir.
Et Franck, moi-même, bonsoir, Viguier, qui ont le grand plaisir d'accueillir ce soir Jean-Pierre Dejoux.
Bonsoir.
Qui est un, vous le verrez dans cette émission, un véritable amoureux de Venise. Et nous avons à la technique Francky, comme d'habitude.
Jean d'Ormesson, qui est un amoureux de Venise, a parlé de cette ville en disant « Aucune ville au monde, ni New York, ni Ispahan, ni Lahore, ni Persépolis, ni Palmyre, ou Fatehpur Sikri en Inde, ni Florence ou Sienne, ni même Paris, Jérusalem ou Rome, la ville par excellence, n'a suscité autant de rêves et fait couler autant d'encre que Venise. D'autres ont des murs d'enceinte, de grands parcs ombragés, des arcs de triomphe, des jardins à la française. Elle est faite de marbre et d'eau. Elle est posée sur la lagune. Elle est la reine des mers et des songes. »
Surgit du fond des âges, immobile dans son voyage, mosaïque de sang et d'or, Venise a posé le décor. Tout est pour l'œil dans ce théâtre, les eaux noires et les murs d'albâtre, illusion, lumière et fontaine, tout est là pour la mise en scène. Dans les crins du soleil couchant, les palais et les goélands rivalisent de poésie pour ouvrir le bal de la nuit. À l'heure où les ombres se glissent, ils flottent encore dans les ruelles. L'atmosphère étrange et cruelle de Lucrèce et des Médicis. Mais déjà le soleil se lève, le rideau s'ouvre sur le verre, et c'est là que la ville explose de violet, de vert et de rose. Sous les masques des farandales, dans le glissement des gondoles, la symphonie des mousselines, des guitares et des mandolines. C'est la foule qui vous emporte au hasard des ponts et des portes, ivre de liesse et de folie. Mon Dieu, que Venise est jolie, sous le ciel des balcons fleuris, où l'on voit tourner les enseignes, et dans le désordre qui règne, Venise alors a du génie. Puis le tableau reprend sa place, peu à peu la folie s'efface, juste une effluve de fanfare, quelques rires, un pas qui s'égare. On entend les pontons gémir, c'est l'hiver au pont des soupirs. Un bateau s'en va vers les îles, les airs s'égrènent aux campaniles. Venise, rien n'a changé. Même les siècles ont beau laisser des lézards au mur des maisons, jamais le temps n'a eu raison. Ni des fastes du carnaval, ni des pierres ou des bacchanales, de Véronèse ou de Titien, ni des lustres en cristal ancien. Et déjà le soleil du rêve sur Venise à nouveau se lève. À nouveau les façades explosent de violet, de vert et de rose. Sous les masques des farandoles, dans le glissement des gondoles, la symphonie des mousselines, des guitares et des mandolines. C'est la foule qui vous emporte au hasard des ponts et des portes, ivre de liesse et de folie. Mon Dieu, que Venise est jolie, sous le ciel des balcons fleuris, où l'on voit tourner les enseignes, et dans le désordre qui règne, c'est l'enfer ou le paradis qui vous mène au bout de la nuit. Venise alors a du génie.
Venise, une chanson d'Yves Dutheil, écrite et composée et interprétée par lui-même. La ville est parcourue par 177 canaux, le plus important est le Gran Canale, et 455 ponts, le plus souvent arqués pour laisser passer les bateaux. Elle possède 123 églises et elle s'étend sur 118 îles.
Bien, c'est Venise la Sérénissime. Mais alors, pourquoi l'a-t-on surnommée ainsi ?
La Sérénissime était un titre honorifique, généralement utilisé entre les princes et souverains, mais également pour les doges de Venise. Cette figure de style fut alors utilisée pour la Sérénissime République de Venise, Serenissima Repubblica de Venezia, puis simplement Sérénissime.
Alors, une autre question, comment Venise fut construite ?
Les Romains se trouvèrent à l'origine de la construction de Venise en 168 après Jésus-Christ. Cependant, les premières constructions furent détruites puis reconstruites pour être rétablies au début du 5e siècle. Ces premières constructions évoquées durent être réalisées sur des bancs de boue instables et la reconstruction se poursuivit au long des siècles, en fonction de l'expansion et du développement enregistré. Les îles alentours se relièrent pour faciliter tout mouvement, et en 828 après Jésus-Christ, le statut de la ville se vit augmenté par l'apport de monuments d'Alexandrie.
Bien, et quelle est la diversité architecturale de Venise ? Comment sont réalisées les fondations ?
Les fondations sont constituées de pieux enfoncés dans les barene, bancs de sédiments limoneux, pour renforcer le terrain jusqu'à atteindre le quaranto, couche d'argile solide et de sable. Quand le quaranto n'est pas atteint en profondeur, on dresse des parois, on assèche le fond dans lequel on enfonce les pieux de chêne, rouvre ou de mélèze. Sur ce premier niveau, on pose un zataron, sorte de ponton fait de deux couches de madrier de mélèze, cimenté à l'aide d'un agrégat de pierre et de briques. Sur ce zataron s'appuient les fondations en pierre d'Istrie et enfin la maçonnerie au-dessus du sol.
Venise décrite par Marie de Régnier dans Extrait de Verrerie. Tour à tour orangée ou rouge ou rose ou grise, découpée ou cassante au soleil qui l'irise. Comme le reflétaient les détours des canaux, je la revois changeante en ces légers cristaux, voluptueuse, triste et fardée et fragile. Le vert bleuissant mire toute la ville, matinale et riante, au fond du vase aimé, où me la rend nocturne en son cristal fumé. Le dôme de Saint-Marc s'arrondit dans sa panse, et le col des pigeons en a recourbé l'anse, tandis qu'en carillon teintent les pendentifs, liquides et gelés, des lustres au feu vif.
C'était un poème de Marie de Régnier, Marie de Hérédia, extrait de Verrerie, déclamé par Claude Viguier.
Et le style vénéto-byzantin est issu de la fusion des styles européens et byzantins. Il est visible sur l'île de Torcello, avec son ancienne cathédrale Santa Maria Assunta, de style byzantin, avec la mosaïque La Vierge et l'Enfant de l'abside centrale, et la mosaïque du Jugement Dernier, avec cependant des absides de style roman. La basilique Saint-Marc comportait d'ailleurs initialement trois nefs associées avec deux ailes formant une croix grecque. Les coupoles de la basilique sont dans l'esprit de l'Orient, de Constantinople.
Nous avons également le style roman dans sa beauté austère et présent dans le Sestiere de Santa Croce, en l'église de San Giacomo dell'Orio et dans le cloître du Museo Diocesano.
Il y a aussi le gothique vénitien qui s'est marié avec le style byzantin et ses feuilles de trèfle trilobées. Typiquement, le palais des Doges du XVe siècle appartient au gothique fleuri. Il en est de même de la Chiesa di Santa Maria Gloriosa del Frari et de l'église dei Santi Giovanni e Paolo.
La Renaissance est visible dans la Biblioteca Nazionale Marciana ou la façade de l'église San Giorgio Maggiore.
Et n'oublions pas le style baroque et néoclassique. L'église de Santa Maria della Salute, avec sa coupole massive du maître de baroque Baldassare Longhena, est elle dans ce style au sud-est du Grand Canal.
Enfin, l'architecture moderne s'exprime dans les pavillons de la Biennale, la Punta della Dogana et des rénovations audacieuses Palazzo Barbarigo.
Frontispice. Sur l'eau verte et bleue ou grise des canaux et du canal, nous avons couru Venise de Saint-Marc à l'Arsenal. Au vent vif de la lagune qui l'oriente à son gré, j'ai vu tourner ta fortune, ô Dogana di Mare. Souffle de l'Adriatique, brise molle ou sirocco, tant pis si ton doigt m'indique Fusine ou Malamocco. La gondole nous balance sous le fels et de sa main le fer coupe le silence qui dormait dans l'air marin. Le soleil chauffe les dalles sur les quais des esclavons. Tes détours et tes dédales, Venise, nous les savons. L'eau luit, le marbre s'ébrèche, les rames se font écho quand on passe à l'ombre fraîche du palais Rezzonico. Ce poème est d'Henri de Régnier.
Eh bien, passons maintenant à notre domaine qui est celui des personnages célèbres de Venise.
San Marco, Saint-Marc, un des quatre évangélistes auteurs de l'évangile selon Marc du Nouveau Testament, fondateur de l'église d'Alexandrie. Selon la légende, un ange serait apparu à Saint-Marc et lui aurait annoncé qu'il reposerait dans une lagune. En 828, deux Vénitiens sur ordre du doge de Venise, Guicignano Participazio, réussirent le tour de force de dérober les reliques de Saint-Marc à Alexandrie, dans la chapelle du petit port de pêche de Bucole, lieu où Saint-Marc fut exécuté en 68. Les reliques furent installées dans la chapelle attenante au palais des Doges. Saint-Marc remplaça Saint Théodore en tant que patron de Venise et prit pour symbole le lion.
Marco Polo est un Vénitien le plus célèbre et le plus représentatif de la grandeur commerciale et diplomatique de Venise. L'aéroport porte son nom. Marco Polo fut un commerçant très entreprenant et intrépide, doté d'une capacité extraordinaire à influencer ses interlocuteurs. Il passa 17 ans en Chine comme négociant et diplomate. Il écrivit son fameux livre, Le Livre des Merveilles.
Et puis, il y a Vivaldi. Mais nous l'évoquerons plus tard au cours de l'émission. Pour l'instant, la question qu'on peut se poser, mais quels sont les monuments très caractéristiques de Venise ?
Ben, il y a Il Molo. C'est une des entrées d'eau de la ville qui était considérée comme un point d'accueil pour les hauts fonctionnaires et les touristes. Elle est caractérisée par deux grandes colonnes de la Piazzetta qui furent amenées de l'Est au XIIe siècle pour distinguer cette entrée de toutes les autres.
Mais l'un des plus caractéristiques, certainement, c'est la Piazza San Marco. C'est une des attractions touristiques les plus célèbres, avec sa large place qui dut sa célébrité à l'abondance de peintres au cours des siècles passés. Aujourd'hui, elle est entourée d'un grand nombre d'attractions touristiques, de bureaux, de boutiques et de cafés de nature architecturale, artistique distincte.
En matière d'intérêt pour les visiteurs, il y a aussi le clocher Saint-Marc ou Campanile. C'est l'un des plus grands bâtiments de Venise avec une longueur de 99 mètres et présentant une forme rectangulaire de couleur rouge s'élevant au-dessus des sommets de San Marco pour donner une grande vision sur les toits de la ville et attirer de nombreux touristes pour profiter des belles vues. Vous êtes bien sur IDFM Radio 98 FM dans l'émission de L'Onde Poétique qui se présente tous les dimanches soirs de 21h à 22h et je vous conseille de l'écouter. Et à l'antenne de l'invitation au voyage sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui qui est Venise.
Venise la rouge, pas un bateau qui bouge, pas un pêcheur dans l'eau, pas un falot. Seul, assis à la grève, le grand lion soulève sur l'horizon serein son pied d'airain. Autour de lui, par groupe, navires et chaloupes, pareils à des hérons couchés en rond, dorment sur l'eau qui fume et croisent dans la brume en léger tourbillon leur pavillon. La lune qui s'efface couvre son front qui passe d'un nuage étoilé demi-voilé. Ainsi la dame abaisse de sainte croix, rabaisse sa cape aux larges plis sur son surplis. Et les palais antiques, et les graves portiques, et les blancs escaliers des chevaliers, et les ponts et les rues, et les mornes statues, et le golfe mouvant qui tremble au vent. Tout se tait, fort les gardes aux longues hallebardes qui veillent au créneau des arsenaux. Ah, maintenant plus d'une attend au clair de lune quelques jeunes muguets, l'oreille au guet. Pour le bal qu'on prépare, plus d'une qui se pare, met devant son miroir le masque noir. Sur sa couche embaumée, la vanina pâmée presse encore son amant en s'endormant. Et Narcissa la folle, au fond de sa gondole, s'oublie en un festin jusqu'au matin. Et qui, dans l'Italie, n'a son grain de folie, qui ne garde aux amours ses plus beaux jours. Laissons la vieille horloge au palais du vieux doge, lui conter de ses nuits les longs ennuis. Comptons plutôt, ma belle, sur ta bouche rebelle, tant de baisers donnés ou pardonnés. Comptons plutôt tes charmes, comptons les douces larmes qu'à nos yeux a coûté la volupté.
Ce que vous venez d'entendre est un poème d'Alfred de Musset qui a été mis en musique par Triomphe sur un enregistrement de Colombe Frézin.
Continuons avec la peinture à Venise, un élément important de cette ville. Alors, quels furent les grands peintres vénitiens ?
Les Bellini. Il y a eu Bellini Jacopo, Bellini Gentile et Bellini Giovanni.
Également Carpaccio Vittore, Giorgio da Castelfranco di Giorgione, Tiziano Vecilio dit le Titien.
Et puis Jacopo Robusti dit le Tintoret et Véronèse, Paolo Cagliari et puis Tiepolo Giambattista. Ah voilà, voilà, mais l'Académie des Beaux-Arts là-dedans. Elle conserve les chefs-d'œuvre de la peinture vénitienne. Par ordre d'importance viennent ensuite le musée Corrère et le musée vénitien du XVIIIe siècle, situé dans l'élégant palais de Ca Rezzonico. D'innombrables œuvres de la Renaissance italienne sont rassemblées là, dans les écoles de San Rocco et de San Giorgio degli Schiavoni.
La plus importante collection existante d'art vénitien se trouve donc à l'Académie des Beaux-Arts et au musée. Ils sont logés dans trois bâtiments qui furent autrefois des lieux de culte. Le couvent des chanoines du Latran, fondé en 1134, l'église de Santa Maria della Carità du XIIe siècle et l'école du même nom à partir de 1260. La première Académie des Beaux-Arts fut créée par le Sénat en 1750 et placée sous la direction de Piazzetta.
Mais quel est, dans l'absolu, ce qu'on peut appeler le peintre de Venise ?
Eh bien, je crois qu'il s'agit de Giovanni Antonio Canal, dit Canaletto. Il se forma dans l'atelier de son père, où il collabora à la création de scénographies théâtrales. Il étudia dans un premier temps la peinture à Rome et s'attacha particulièrement au travail du Hollandais Gaspard van Wittel. Ses peintures de jeunesse eurent pour sujet des ruines antiques qu'il mit en page de façon spectaculaire. Il se spécialisa ensuite dans les vedute.
Et la majeure partie de sa production concerne Venise, qu'il mit en valeur par un détail au réalisme touchant la perfection, conduit par une remarquable maîtrise de la perspective. Dans ses toiles, la réalité est souvent accompagnée d'une ambiance toute théâtrale. Canaletto connut vite une reconnaissance européenne. Ses œuvres s'exportèrent essentiellement en Angleterre, où il s'installa à partir de 1746. Il continua à y peindre des représentations de sa ville natale à partir de dessins préparatoires qu'il avait emmenés avec lui, mais également des vues de Londres et de sa campagne qui influencèrent toute une génération de peintres anglais. Et il revint à Venise en 1755 et devint professeur de perspective à l'Académie des Beaux-Arts, où il côtoya Giambattista Tiepolo.
Je vais vous dire des extraits d'un poème de Jacques-François Ancelot de 1851. Voyez-vous, gondolier, sur la lagune immense, ce pont qui se déploie où la ville commence ? Contemplons un moment cet imposant tableau, ce long ruban qui glisse en se tenant sur l'eau et dont un bout s'attache à Venise étonnée par ce câble de pierre au rivage enchaîné. puis le vieil arsenal où se forgeaient les fers dont la fière Venise enveloppait les mers. Deux fois muets témoins d'une gloire expirée, les lions qui veillaient aux portes du Pirée semblent ici pleurer, accroupis sur le seuil, une double splendeur que suit un double deuil. Mais partout sous nos pas, les merveilles semées veulent d'autres tribus pour d'autres renommées. Immortel créateur de l'art vénitien, Palladio, Palma, Tintoret, Titien, et toi, Paul Gagliari, que la fière Vérone a doté de son nom, ta plus belle couronne. Déroulez devant moi vos chefs-d'œuvre rivaux, orgueil des temps anciens, désespoir des nouveaux. Tous ces marbres pieux, ces toiles symboliques dont vos mains ont paré les saintes basiliques. Laissez-moi promener mes regards éblouis sur ces récifs vivants des jours évanouis, monuments de grandeur, souvenirs de gloire, de victoire, où le pinceau redit la merveilleuse histoire de ces républicains, plus despotes sans foi, plus fastueux, plus fiers, plus riches que des rois.
Ce poème de Jacques-François Ancelot a été lu à l'Académie française en séance publique le 28 août 1851 et il nous était déclamé par Claude Viguier.
T'as pas de courage prendre un avion, ni même un train. Tu pourrais pas lui offrir un aller melun. Mais tu l'emmènes, puisque tu l'aimes, sur des océans dont les marins n'ont jamais, jamais vu la fin. Tu as le ciel que tes carreaux t'ont dessiné, et le soleil sur une toile de ciné. Mais tu t'en fiches, mais tu es riche, tu l'es puisque vous vous aimez. Venise n'est pas en Italie, Venise c'est chez n'importe qui. Fais-lui l'amour dans un grenier et foutez-vous des gondoliers. Venise n'est pas là où tu crois, Venise aujourd'hui c'est chez toi. C'est où tu vas, c'est où tu veux, c'est l'endroit où tu es heureux. Vous n'êtes plus dans cette chambre un peu banale. Ce soir vous avez rendez-vous sur le canal. Feu d'artifice, la barque glisse, vous allez tout voir, tout découvrir, y compris le pont des soupirs. Ça durera un an ou une éternité, le temps qu'un dieu vienne vous dire assez chanté. Quelle importance, c'est les vacances, tout ça parce que vous vous aimez. Venise n'est pas en Italie, Venise c'est chez n'importe qui. Fais-lui l'amour dans un grenier et foutez-vous des gondoliers. Venise n'est pas là où tu crois, Venise aujourd'hui c'est chez toi. C'est où tu vas, c'est où tu veux, c'est l'endroit où tu es heureux. Venise n'est pas en Italie, Venise c'est chez n'importe qui. C'est important, c'est important, mais ça n'est pas n'importe quand. Venise c'est quand tu vois du ciel couler sous des ponts Mirabel. C'est l'envers des matins pluvieux, c'est l'endroit où tu es heureux. Venise n'est pas en Italie, Venise c'est chez n'importe qui. C'est n'importe où, c'est important, mais ça n'est pas n'importe quand. Venise c'est quand tu vois du ciel couler sous des ponts Mirabel. C'est l'envers des matins pluvieux, c'est l'endroit où tu es heureux.
Cette belle chanson que vous venez d'écouter, qui s'intitule « Venise n'est pas en Italie », a été écrite par Claude Lemel sur une musique de Christian Piget et interprétée, comme vous avez pu le reconnaître, par Serge Reggiani. Eh bien, vous êtes toujours sur IDFM Radio, 98 FM, dans l'émission de l'Onde Poétique, qui, je vous le rappelle, peut être écoutée sur le site tous les dimanches soirs de 21h à 22h. À l'antenne, l'invitation au voyage dont le sujet qui nous intéresse ce soir, toujours, est Venise.
Eh bien, nous allons nous intéresser maintenant à la musique à Venise. 1527 marqua le début de l'âge d'or de la musique à Venise, personnifié par l'arrivée d'un très grand musicien bourguignon flamand, Adrian Willaert. Maître de chapelle de la grandiose basilique Saint-Marc, il sut exploiter à des fins musicales les caractéristiques architecturales pour écrire en écho pour deux orgues ou deux chœurs. Naquit le fameux style cori spezzati. Cette polychoralité et ce style d'écriture constituèrent l'une des évolutions stylistiques majeures menant à ce que l'on appelle aujourd'hui l'art baroque.
Dessus le marché d'Arras, Mireli, Mirela, Bromba, j'ai trouvé Ung Esparniat, Santin, Santa, sur le bon pas. Mireli, Mirela, Bombille, Mireli, Mirela, Bomba. Il me dit, Gilles Escuta, Mireli, de l'argent, on vous donnera. Santi, Santa, Mireli.
Eh bien, c'était un extrait du recueil « Six gaillardes et six pavanes » avec 13 chansons musicales à quatre parties de Orland de Lassus et Adrian Willaert. Elles lui succéderont des musiciens comme Andrea Gabrieli et l'immense Claudio Monteverdi, surnommé l'oracle de la musique, son premier opéra Orfeo en 1607, est l'un des plus grands événements de l'histoire de la musique et annonce l'opéra moderne. Cette musique de Monteverdi est extraite du 8e livre des Madrigaux, les Madrigaux des guerriers et de l'amour. Viennent ensuite des musiciens remarquables comme Pier Francesco Cavalli, Giovanni Il Grenzi, Antonio Lotti, Baldassare Galuppi.
Fondé entre le 12e et le 16e siècle, les Ospedali devinrent au XVIIIe des conservatoires de grand renom. Ces hospices, musiciens, penchés comme des conservatoires d'excellence dédiés aux enfants démunis, n'enseignaient pourtant la musique qu'à des jeunes filles. Il était interdit aux instrumentistes de jouer hors de leur institution et aux filiers del coro de faire carrière sur des scènes d'opéra. Il leur était aussi théoriquement interdit de composer. Dans les faits, les règlements étaient plus lâches. Quelques compositrices furent issues de ces conservatoires comme Anna Bonn, la violoniste Maddalena Lombardini-Sirmen ou encore Vicenta da Ponte.
Et la Sérénissime accoucha de l'opéra. En 1637 s'ouvre à Venise la toute première maison d'opéra du monde. Le Teatro di San Cassiano. Venise au rythme des saisons et des modes européennes. Antonio Vivaldi fut à la Sérénissime ce que Mozart fut à Salzbourg. La musique du surnommé prêtre roux fit rayonner la cité des doges au-delà des frontières et portait à son apogée la célèbre école de Venise.
Thank you. Eh bien, ce que vous venez d'entendre est un concerto composé par Antonio Vivaldi pour les élèves de l'Ospedale della Pietà, école de musique où, à partir de 1704, il occupa le poste de maître de violon principal et où, de 1713 à 1740, il fut nommé principal compositeur. C'est dans cet endroit qu'il composa la plupart de sa merveilleuse musique.
Et de Campo Formio à nos jours, c'est la décadence et grandeur de Venise. Venise fut réduite à l'état de simple ville de province, ce qui inspirera à Franz Liszt la lugubre gondole. Mais la création d'opéra continua avec les signatures de Giacchino Rossini, Gaetano Donizetti et Giacomo Meyerbeer sur la scène de la mythique Fenice. C'est dans ce lieu que furent créés 4 opéras, dont Rigoletto et la Traviata de Giuseppe Verdi.
La mort à Venise de Richard Wagner. Wagner, lui, s'installa en famille au palais Vendramin. Le 24 décembre 1883, il dirigea sa symphonie en do majeur à la Fenice. Le 13 février 1884, une ultime crise cardiaque le terrassa. Ce fut son fidèle gondolier, Luigi Trevisan, qui mena sa dépouille en gondole jusqu'à la gare Santa Lucia pour être enterré à Bayreuth.
Au XXe siècle, 3 noms sont à retenir. William Walton, puis Igor Stravinsky et Benjamin Britten. Stravinsky et Serge Diaghilev, le fondateur des ballets russes, reposent pour l'éternité dans le cimetière de l'île de San Michele. San Francesco Maliepiero exerça une influence considérable sur la vie musicale de l'Italie de l'après-Première Guerre mondiale. Pionnier de l'écriture sérielle et de la musique expérimentale, Bruno Maderna fut un des plus authentiques représentants du renouveau de la musique italienne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Eh bien, c'était une superbe orchestration du Carnaval de Venise par André Campra sur un livret de Jean-François Regnard, Académie Royale de Musique, 28 février 1699. Donc vous avez compris que nous sommes sur un autre chapitre et c'est lui du Carnaval de Venise.
L'histoire du Carnaval. Je crois que la première citation dans l'histoire date de 1094 et en 1269...
Un édit du Sénat déclara la veille du carême jour férié, autorisant le déguisement. De même, la fête des Maries, qui existe depuis 948 le 2 février, fut déplacée pour ouvrir le carnaval.
Je crois qu'au XVIIIe siècle, d'autres choses se sont passées.
Oui, oui, repris en main par la noblesse, le carnaval a atteigni le sommet de sa splendeur. Et il abandonna la place publique et ses excès populaires pour les cafés, les théâtres, les cercles de jeux. Et à la même époque, le vol de l'ange, suite de l'accident mortel du funambule chargé de descendre du campanile jusqu'au palais des Doges, fut remplacé par une colombe en bois devenant le vol de la colombe.
Et au 19e, que peux-tu nous dire ?
Sous l'occupation napoléonienne, le carnaval fut interdit, puis rétabli, mais très encadré sous la domination autrichienne, il ne connut plus un grand succès.
Et au 20e siècle ? En 1970, par exemple ?
Oui, des étudiants alors remirent à l'honneur les matachini, qui lançaient des œufs remplis de parfums aux jolies femmes, mais aussi des œufs pourris à celles qui leur déplaisaient. Et la fête, purement vénitienne, se déroulait sur les divers campi de la ville.
Et en 1980 ?
Le carnaval fut officiellement rétabli et connut de suite un immense succès touristique. La ville se remplit durant 10 jours de masques dont le corps est entièrement caché et d'historiques portant costumes ou uniformes de diverses époques.
Et maintenant au 21e ?
Et au 21e siècle, le prologue du carnaval débute par le vol du rat, où un cortège de bateaux accompagne l'effigie d'un rat qui explosera, libérant fumée et compétit. Le carnaval s'ouvre avec le cortège des maris, suivi le lendemain du vol de l'ange. Les places et les rues, mais aussi les fêtes privées, malheureusement payantes, se remplissent de masques de plus en plus originaux et baroques. Et le carnaval se clôt avec le vol du lion, large étendard portant le symbole de la Sérénissime, tombant sur la place Saint-Marc.
Il s'agissait du mouvement Presto, du concerto pour violon numéro 2 en sol mineur d'Antonio Vivaldi par le Hamburg Chamber Orchestra.
Théophile Gautier, dans Emo et Camé en 1852, nous parle de Venise. Venise pour le bal s'habille, de paillettes tout étoilées, scintille, fourmille et babille, le carnaval bariolé.
Extrait du poème de Théophile Gautier, déclamé par Claude Viguier.
Notre émission approche de sa fin, mais je ne peux pas éviter de vous parler des prochaines dates du carnaval de Venise. Eh bien, l'année prochaine, en 2024, ce carnaval aura lieu du 3 au 13 février. Mais n'oublions pas notre année, 2023. Alors, pour cette année, chers auditeurs, je vous signale que vous n'avez plus, malheureusement, que 2 jours à partir d'aujourd'hui pour aller à Venise assister à son carnaval.
Faut que je t'invite à Venise avant que l'eau l'ait noyée. Tu peux laisser tes valises. On fera tout dans la journée. Qu'un long séjour nous épuise. Faut que je t'invite à Venise avant que l'eau l'ait noyée. Avant que l'eau des banquises vienne couvrir le monde entier. On ira sur des jetées qui s'enlisent. Faut que je t'invite à Venise avant que l'eau l'ait noyée. On fera ni les églises ni les galeries des musées. Et de surprise en surprise, on se perdra dans les cartes postales. On voguera sur des canaux sales.
Alors, vous venez d'entendre un morceau de Nilda Fernandez, l'auteur-compositeur qui chantait « L'invitation à Venise ». Et maintenant, que va devenir Venise ?
Il y a la lagune est devenue la plus grande menace pour la survie de Venise. L'Acqua Alta, haute eau autrement dit, souvent générés par des marées anormalement hautes dues à des vents violents, des ondes de tempête et des pluies intenses à l'intérieur des terres, représentent par la fréquence plus élevée une inquiétude.
Un certain nombre de solutions ont été proposées pour sauver Venise du naufrage, dont le projet MOSE, Modulo Sperimentale Elettromeccanico, ou module électromécanique expérimental. Il prévoit la construction de 79 vannes mobiles qui sépareront la lagune de l'Adriatique lorsque la marée dépassera d'un mètre le niveau habituel des hautes eaux. Néanmoins, certains observateurs pessimistes doutent que ces mesures soient suffisantes et que la ville finisse par sombrer, tout comme la légendaire cité de l'Atlantide.
Eh bien, notre émission maintenant se termine, cette émission de l'Onde Poétique, consacré à Venise. Écoutez tous les dimanches, soir à 21h, nos émissions sur IDFM Radio, 98FM, ou plus tard en podcast sur le site de la radio, pour faire vivre ensemble la poésie. Et aujourd'hui, à suivre, après cette émission, celle de Rock Power de Jean-Philippe Doré. Et je vous signale aussi que dimanche prochain, Claude et Franck Viguier, c'est-à-dire nous-mêmes, dans Fragments Poétiques, aborderont une thématique sur la poésie des déserts. Bonsoir, amis, auditrices et auditeurs, et à la prochaine, et vive la poésie.
Bonsoir, tous.
Bonsoir.